Les voix de Sanef.
Les voix de Sanef, le podcast du rapport d'activité 2022-2023 du groupe Sanef. Écoroute. On oublie parfois à quel point l'autoroute est vivante, peuplée d'une faune fourmiliante, bordée d'une végétation qui constitue un habitat riche. L'autoroute fait partie d'un écosystème complexe. Elle dessert des milieux naturels, traverse des zones protégées, des forêts, abrite des espèces sauvages. Cette position impose une certaine responsabilité. Les infrastructures doivent respecter autant que possible les milieux naturels où elles s'implantent. Si l'impact des transports sur l'environnement est conséquent, l'autoroute se doit d'en limiter les conséquences. Le tracé rectiligne d'une autoroute a ses limites. Si elle permet la fluidité de la circulation, elle constitue également un rempart pour la circulation d'une faune qui, dans certains endroits, peut être nombreuse. Sanef s'engage à faciliter et protéger le déplacement des animaux grâce au déploiement de près de 100 passages à faune au-dessus et au-dessous de ces autoroutes. Cette année, le grand projet, c'est l'écopont d'Hermenonville. Là-bas, les massifs d'Alate, de Chantilly et d'Hermenonville représentent une entité forestière de plus de 10 000 hectares. Cet ensemble remarquable, traversé par l'autoroute A1, constitue un écosystème inscrit au réseau européen Natura 2000. Relier les forêts de Chantilly et Hermenonville est devenu une nécessité pour la faune et donc pour Sanef. Alors pour nous raconter le projet en détail, j'accueille Mathieu Deiby, responsable d'opération pour cet écopont chez Sanef. Bonjour.
Bonjour.
Et Laure Gauthier, technicienne forestière à l'ONF.
À l'Office national des forêts, oui, bonjour.
Merci. Partenaire donc de Sanef sur ce projet. Alors Mathieu, est-ce que vous pouvez vous présenter votre métier et vos missions?
Je suis responsable d'opération construction nouvelle au sein de la direction des infrastructures du groupe Sanef. Donc, j'assure le pilotage opérationnel des projets de construction et leur suivi depuis les études amont jusqu'à la mise en service des opérations. Donc, je veille à ce que les engagements du groupe Sanef soient respectés, mais également le respect de la réglementation, des engagements environnementaux et également le respect du coût, du planning, etc.
D'accord. Alors Mathieu, avant de parler plus précisément d'Hermenonville, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'engagement de Sanef pour protéger la faune et la flore autour des autoroutes?
Donc dans le cadre de sa politique RSE, Sanef s'est fixé un objectif qui est très clair, réduire l'empreinte carbone de ses autoroutes et mettre en place des actions contre les réchauffements climatiques. Il y a le grand programme de construction de passages grand faune, dont ce sont des ponts, ce qu'on appelle des ponts verts, qui permettent de rétablir la continuité écologique entre les territoires. Donc je peux citer par exemple, il y a des écoponts sur A29, sur A16, sur A4, mais également sur A1, comme l'écopont d'Hermenonville. Et l'histoire ne se termine pas là, parce qu'il y a d'autres écoponts qui vont arriver dans les années à venir.
D'accord. Laure, pour introduire le projet de l'écopont d'Hermenonville, est-ce que vous pouvez nous parler plus spécifiquement de son écosystème?
Oui, tout à fait. La forêt d'Hermenonville est tout entière posée sur un sol sableux, sur des sols même podzoliques, c'est-à-dire acides et pauvres en éléments minéraux, qui étaient à l'origine des landes, pour une grande partie des landes sèches à Calune, une végétation buissonnante, tout un cortège animal et végétal associé, qui sont très très précieuses d'un point de vue écologique.
D'accord.
Donc, je souhaite juste rebondir par rapport à ce point-là, d'où un peu la complexité de cet environnement, parce que dans le cadre du travaux des copons d'Hermenonville, on est amené quand même à réaliser des travaux de plantation. Et en créant un nouvel ouvrage, on a besoin d'apport de matériaux, de sable, pour couvrir cet écopon. Et la subtilité, c'est que le sol acide n'est pas naturellement acide. C'est quelque chose qui se fait au fil des années, par lessivage, par des cycles de sécheresse et de pluie. Donc, d'où la complexité un peu de cet environnement qui est assez riche et assez précieux.
D'où effectivement le travail commun. Vous avez besoin de l'éclairage technique, on va dire, de l'or forestière, et puis vous, pour la partie faisabilité
et technicité.
Et technicité, oui, tout à fait. Que signifie l'inscription Natura 2000? Qui veut répondre?
Je me lance.
Vas-y.
Alors, Natura 2000, c'est un réseau de sites européens qui ont été choisis suite à des inventaires pour leur grande richesse biologique. L'objectif, c'est d'enrayer rapidement la perte de biodiversité. En fait, il y a une urgence de perte de biodiversité. C'est de protéger cette biodiversité. Le massif des trois forêts, donc Hermenonville, Chantilly et Alate est tout entier, compris dans un site Natura 2000, même dans deux sites, pour différentes raisons. L'aspect forestier, avec les vieux bois pour protéger des oiseaux, comme par exemple le piquemar ou alors le piquenoir. Il y a des espèces de chauves-souris, enfin on pourrait en citer beaucoup. Et puis aussi pour protéger ce réseau de landes sèches, qui finalement est un stade un petit peu transitoire, qui était entretenu à l'époque, jusque ce début du 19e ou 18e, par le pâturage au vin, et qui, sans pâturage, se referme naturellement, c'est-à-dire dans notre jargon, les arbres autour font des graines, et puis finalement la forêt reprend ses droits.
D'accord, très bien. C'est une spécificité de cette forêt
Oui, tout à fait, de cette forêt, aussi un petit peu sur le massif de Chantilly, ce réseau de landes, et c'est avec toutes ces espèces associées, notamment l'engoulevent d'Europe, qui est un oiseau migrateur qui vient nicher, qui a la bonne idée de nicher au sol et qui a besoin de ces milieux sableux, un peu décapés, ces zones de landes ouvertes, qui est menacée. Si on veut garder ces espèces, il faut conserver son habitat.
Alors, quelle est la faune de cette forêt qui est concernée et qui a besoin de se déplacer, qui a besoin d'utiliser ces écopons? À quelle partie de la faune ça s'adresse?
Alors, on pense d'abord aux grands animaux. Par exemple, à Chantilly et Hermenonville, on a des grosses populations de cerfs, de chevreuils, tous les grands animaux. Évidemment, on sait que pour accomplir son cycle de vie, pour se nourrir, se reproduire, etc., les animaux ont besoin de se déplacer, qu'il faut qu'on crée toutes ces zones qui sont fragmentées essentiellement par l'activité humaine, ont besoin d'être reconnectées, d'où cette nécessité de corridors écologiques. Le brassage génétique est essentiel aux survies d'espèces. Donc, les populations de cerfs d'Hermenonville et de Chantilly vont pouvoir se retrouver et puis et se mélanger. Mais pas seulement. Justement, on pense pas à la plus petite faune. Justement, cette faune, par exemple, inféodée aux landes, au milieu de landes, le petit lézard des souches, les autres petits reptiles, les petits insectes qui vont pouvoir rallier les zones de landes de la forêt de Chantilly et inversement.
Comment techniquement vous allez réaliser ces écopons? Comment vous allez faire en sorte que les animaux s'y habituent, l'utilisent et que tout se passe au mieux, quoi?
Comme j'ai précisé tout à l'heure, donc le choix de l'emplacement de l'ouvrage, son implantation, ses caractéristiques techniques ne sont pas sortis du chapeau. C'est un travail de longue haleine qui a débuté en 2012 et s'est achevé en 2020. Donc c'est 8 années d'études, de concertation avec les acteurs du territoire, comme l'ONF, comme la Fédération des chasseurs de l'Oise, comme le parc naturel régional, comme par exemple les communes, la préfecture, le département. Il y a une concertation assez large avec tous les acteurs, mais également en concertation avec des ingénieurs écologues pour qu'ils puissent nous accompagner sur la définition de l'implantation de l'ouvrage pour qu'on puisse avoir une structure efficace à long terme. Donc, si je veux un peu préciser les caractéristiques de l'ouvrage, donc on parle d'un projet qui coûte 7 millions d'euros. C'est un investissement complètement assuré par SANEF. L'ouvrage fait 52 mètres de longueur et 30 mètres de largeur. C'est le copon le plus large sur les réseaux SANEF au jour d'aujourd'hui. Il est équipé de 2 écrans bois qui font 2,50 mètres de hauteur. L'objectif, c'est que ces écrans bois puissent limiter la pollution lumineuse des phares des voitures, surtout la nuit, pour ne pas perturber la faune, mais également de réduire le bruit de l'autoroute. Donc l'ouvrage se pose sur 3 appuis. Donc ce sont les appuis au niveau des accotements de l'autoroute et l'appui central, la zone qui sépare les deux sens de l'autoroute. C'est un ouvrage donc qui est construit sur circulation autoroutière. Donc il a été construit en maintenant la circulation autoroutière, un challenge assez délicat parce qu'il faut préserver en premier lieu la sécurité des usagers d'autoroute, mais également des personnes qui interviennent pour réaliser les travaux de construction. C'était un engagement du groupe SANEF de réduire au maximum la gêne par rapport aux usagers, sachant que c'est un axe, c'est l'un des axes les plus circulés en Europe, 90 000 véhicules jour et beaucoup de poids lourds, avec des coupures très 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 restreintes de l'autoroute. C'était uniquement pour des phases assez pointues, assez précises, par rapport par exemple à la pose des poutres ou bien la pose des écrans bois. Toute la partie génie civil s'est achevée en janvier 2023 et les travaux des aménagements paysagers sont plutôt vers la fin. Notre objectif, c'est de mettre en service cette opération à l'été 2023. Au niveau des aménagements paysagers, on a remis en place le sable du site, tout en préservant tout ce qui a été décaissé lors de la phase travaux. On a également mis en place un programme de plantation des essences issues du site. Ce sont des essences conformes à ce que le site actuel présente. Nous avons mené toute une campagne de mise en culture des graines des espèces protégées, comme la bruyère cendrée, au sein du Conservatoire botanique de Bailleul, pour que ces graines puissent pousser et qu'on puisse les planter ultérieurement. Donc c'est une tâche qui a été réalisée entre mars et avril. Par rapport à la faune, donc le fait de créer une structure large qui n'a pas cet effet couloir, oui, laisse à la faune cette ouverture pour traverser de la forêt d'Armenonville jusqu'à la forêt de Chantilly. Ensuite, on va équiper les copons, comme je disais tout à l'heure, de caméras thermiques permettant de s'assurer que le passage reste fluide et permettant aussi de comptabiliser quel type de faune emprunte l'ouvrage, à quelle fréquence, et qu'on puisse également visualiser l'évolution au fil des années. Donc, je tiens juste à préciser qu'on a mis en place un plan de gestion. C'est un plan sur 10 ans. C'est un plan qu'on a mis en place en collaboration avec l'ONF, mais également avec le Conservatoire botanique de Bailleul et la Fédération de chasseurs de l'Oise. L'objectif, c'est de ne pas dire qu'on a construit cet ouvrage et la tâche est terminée. Il faut qu'on veille à ce que cet ouvrage reste efficace, d'où ce plan de gestion. On a fait un partenariat et on a contractualisé tout ça avec l'ONF pour que l'ONF puisse assurer l'entretien de ces végétations, d'enlever les espèces invasives, d'entretenir la végétation sur ouvrage. La Fédération des chasseurs de l'Oise de créer ses boucles de comptage et de récupérer les informations des caméras thermiques pour qu'on puisse valoriser et comptabiliser la faune empruntant à l'ouvrage, mais également le Conservatoire botanique de Bailleul qui a en charge spécifiquement de suivre les espèces protégées, les espèces à fort enjeu floristique environnemental, afin de les géolocaliser et de nous faire un retour afin de mener les actions correctives si besoin.
Donc un écopont, c'est un peu un écosystème, quelque part. Laure, est-ce que ce genre de chantier qui est assez colossal fait une différence justement pour vous en tant que gestionnaire de la forêt ?
Ah bah oui, c'est vrai que c'est quand même un ouvrage remarquable. C'était une sacrée collaboration pour nous forestiers, de voir que on recrée ces connexions, ces corridors entre les deux massifs. C'est lourd de conséquences sur la faune locale. Ça va dans le même sens que nos travaux qu'on fait en commun. Encore une fois, on parlait de partenariat, mais on travaille beaucoup en commun à cette restauration de réseaux de landes avec le parc naturel régional, avec le conservatoire d'espaces naturels, etc. Et finalement, en plus de toute cette restauration et de cette recréation d'écosystèmes, si je puis dire, c'est aussi un consensus. C'est vraiment un travail commun et un engagement commun de l'ensemble des parties prenantes. Et d'ailleurs, l'ONF, comme tous les partenaires, est signataire de la charte d'engagement et chacun, à son niveau de compétence, va apporter sa pierre à l'édifice et suivre l'ouvrage. Le construire, c'est déjà exceptionnel. Le suivre et l'entretenir, c'est magnifique.
Oui, parce qu'en fait, le passage était coupé jusqu'à présent entre les deux bords de l'autoroute. Donc, c'est vraiment important, effectivement, pour vous et pour cette préservation de collaborer avec un acteur des autoroutes.
Il y avait un passage inférieur, un peu plus au sud, qui fonctionnait mal parce que beaucoup de fréquentation humaine, parce que ça faisait un petit peu entonnoir et finalement, le passage de camion devait faire vibrer le sol et donc ça fonctionnait mal pour le passage des animaux. Ça crée une barrière un peu infranchissable, cette autoroute A1. On espère, en tout cas, je le pense, que les copons révolutionnent ces migrations. Et puis, ce partenariat avec la SANEF était un chantier d'une telle ampleur. En plus du soutien, quand c'est bon pour la forêt, l'ONF est content. Pour l'ONF, être main dans la main avec la SANEF, pour ça, c'est vraiment très, très intéressant. On a aussi, avec Mathieu, collaboré sur une exposition photographique sur la biodiversité également, sur la faune de l'Oise, pour sensibiliser et informer le public, finalement, à la biodiversité locale. Donc, c'est aussi un partenariat utile et important pour l'ONF. Et donc, j'espère que d'autres se feront encore.
Merci et bonne continuation dans ces projets. Et merci Laure et merci Mathieu. La responsabilité de SANEF ne se limite pas aux animaux et aux végétaux. L'eau fait aussi partie des ressources à préserver et auxquelles s'intéresse SANEF au travers de son programme Bassin. Pour en parler aujourd'hui, Xavier Hardy est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes responsable du projet de construction des nouveaux bassins, c'est ça ?
Effectivement, je suis responsable d'un des deux départements conduite d'opération au sein de la direction de la construction et je me suis occupé depuis 6 ans de ce programme d'aménagement de bassins de traitement des eaux pluviales.
D'accord. Alors, un bassin, ça sert à quoi et comment ça fonctionne ?
Un bassin de traitement des eaux pluviales le long d'une autoroute, ça a deux fonctions. La première fonction, c'est de pouvoir confiner une éventuelle pollution accidentelle. Suite notamment à un accident de poids lourd qui pourrait déverser du gasoil, ces bassins, ils sont étanches, équipés d'un système de vannes, de clapets, qui permettent de piéger la pollution en leur sein. Et la deuxième fonction d'un bassin, c'est par effet de décantation, de permettre de traiter les eaux pluviales recueillies sur la chaussée autoroutière avant leur rejet dans le milieu naturel.
Donc on comprend bien oui, les bénéfices de ces bassins par rapport à la protection de l'environnement en règle générale. Quels sont les enjeux plus précisément auxquels répondent ces bassins ?
Les enjeux, c'est tout simplement de protéger la ressource en eau, donc protéger les cours d'eau, protéger également les habitats qui sont à proximité de ces cours d'eau, la faune, la flore qui y vivent. Donc ça, c'est un premier enjeu environnemental, mais aussi un enjeu sanitaire, puisqu'on protège la nappe phréatique, donc les eaux souterraines, et donc on protège les eaux qui sont destinées à l'alimentation humaine, et donc ça répond aussi à un enjeu sanitaire.
Quels ont été les grands chantiers de l'année pour vous ?
Sur les autoroutes les plus anciennes qui ont été construites avant les années 90, il n'y avait pas ce type d'ouvrage. Et donc on a commencé à partir de l'apparition de la loi sur l'eau en 92 à moderniser ces infrastructures en aménagement progressivement via différents plans d'investissement, ces bassins de traitement des eaux pluviales. Et en 2022, ça marque un peu l'achèvement de ce grand programme. En 2022, on a protégé 4 sites remarquables sur l'autoroute A13 et sur l'autoroute A4. Et le chantier le plus remarquable, c'était la protection des rivières de la Nièvre allemande et de la Nièvre française du côté de Metz. Un chantier de 14 km qui a duré 6 mois. On a investi 11 millions d'euros pour aménager 5 bassins. C'était un gros challenge parce qu'il y avait du fort trafic sur cette section. Et donc on a réussi à achever ce chantier avant l'hiver 2022. En total, en 2022, on a investi 22 millions d'euros pour la protection de la ressource en eau. Et au global, sur la période 2016-2022, on a investi plus de 100 millions d'euros pour protéger la ressource en eau.
Est-ce qu'il y a des grands chantiers à venir ?
Pour les années futures, on a fini notre programme d'investissement actuel. On n'a pas contractualisé avec l'État l'aménagement de nouveaux bassins dans le nouveau contrat d'investissement, ce qu'on appelle le contrat de plan 2022-2026. Mais il reste une dizaine de sites encore à protéger et qu'il faudra protéger, on l'espère, d'ici la fin de la concession SANEF.
Quel est votre rôle dans ces projets et quelle est votre fierté peut-être aussi ?
Alors mon rôle, il a été tout d'abord de monter ce programme d'investissement, prioriser les sites les plus vulnérables pour les inclure dans ce programme de protection. Une fois que le programme a été contractualisé avec l'État, j'ai dû lancer les études techniques, piloter les démarches administratives, les procédures environnementales, procédures foncières. J'ai pu aussi monter les marchés de travaux, les suivre et m'assurer qu'ils puissent se dérouler dans des conditions de sécurité optimales.
Selon vous, quelle est la responsabilité d'une entreprise comme SANEF dans la protection de l'environnement ?
La responsabilité, c'est tout simplement parce que SANEF est un gestionnaire d'un réseau d'infrastructures qui traverse des milieux naturels qui sont remarquables, diversifiés. Et donc SANEF porte naturellement une responsabilité pour limiter cet impact sur l'environnement, cet impact sur la biodiversité. Et donc SANEF se doit d'avoir des actions pour préserver cette biodiversité et si possible parfois la valoriser, la mettre en valeur.
Écoutez, merci beaucoup. C'est d'une manière plus générale cette capacité à contrôler les impacts qui est importante pour SANEF. Faire en sorte que les infrastructures se fondent dans l'environnement dont elles font partie sans en bouleverser les équilibres. Ça passe par l'action. Pour découvrir d'autres projets concrets en faveur de l'environnement, je vous invite à écouter le podcast Trajectoire durable qui présente les enjeux de décarbonation de l'autoroute. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à découvrir la série Les Voix de SANEF sur toutes les plateformes de podcast ou notre site internet groupe.sanef.com.